comme dans toute bonne campagne électorale, les candidats, candidates se lancent, plongent, rencontrent avec les médias, des événements sociaux, puis là, ben, souvent, ben, on pack des salles, puis à voir par là. On sait hier que le conservateur dans Sherbrooke, Danny Sivigny, lançait sa campagne et ce que certains ont remarqué, c'est que plusieurs anciens rouges vifs était présent à l'activité de ce conservateur, Sivigny. On aura l'occasion de lui parler dans à peu près une heure. Juste avant, elle est la députée sortante de Compton-Stanstead, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et elle a un bilan à défendre, mais aussi certains enjeux qu'elle tente de mettre de l'avant pour cette campagne électorale. Marie-Claude Bibeault, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé cet avant-midi, donc, cette campagne, et en misant beaucoup sur une campagne régionale, du moins de ce que j'ai pu décoder là, du communiqué de presse qui a été émis. Et vous dites fier de votre bilan.
Absolument.
Ce bilan-là ressemble à quoi pour Marie-Claude Bibeault?
Je suis très fière autant au niveau national qu'au niveau régional. L'Université Laval, les chercheurs de l'Université Laval, la semaine passée, je crois, ont fait l'analyse, comme ils font pour chaque gouvernement, de l'atteinte des promesses, et on a réalisé 92 % de nos promesses. Alors ça, déjà, juste...
92 %
92 en tout ou en partie, et ça, c'est les professeurs de l'Université Laval qui le disent.
Ouais.
C'est le meilleur bulletin qu'ils ont donné depuis qu'ils font cet exercice-là.
Ils ne sont pas payés par les libéraux pour dire ça.
Non, pas les, okay. Pas les universités.
Okay.
Les
92 %
scientifiques, oui. Donc, et la mesure au niveau national dont je suis le plus fière, c'est l'allocation canadienne aux enfants qui a permis de sortir 300 000 enfants de la pauvreté. Et au total, toutes nos mesures sociales, plus de 825 000 personnes sorties de la pauvreté.
Dans la région. Là.
Oui, voilà. Alors, au niveau régional, les municipalités, parce que Compton-Stanstead, c'est une bonne partie de Sherbrooke, mais c'est aussi 35 municipalités rurales. Et vraiment, une très, très grande présence dans mon comté et une équipe extraordinaire aussi pour assurer le suivi. Donc,
ouais.
Entre autres avec les municipalités, mais aussi les organismes communautaires, les institutions d'enseignement, évidemment, le secteur privé. Donc, beaucoup, beaucoup d'accompagnement. C'était vraiment important pour moi de faire une veille et de faire en sorte que toutes les opportunités qui se présentaient, on pouvait en bénéficier.
Ouais.
Alors là, la liste est vraiment très longue de tous les projets d'infrastructure qu'on a pu financer au niveau communautaire. Et mon petit projet qui me tient plus à cœur, je dirais, c'est au niveau de la protection des lacs.
Ouais.
Parce que là, grâce au leadership de Bleu Massawippi, on a vraiment ouvert une porte au ministère des Transports. Ça fait 3 ans qu'on recueille des données scientifiques pour permettre aux municipalités de réglementer intelligemment la navigation sur leur lac là, en fonction de la capacité d'accueil de chaque lac. Alors ça, j'en suis très fière.
Il y a un mot que j'avais oublié, le monde agricole. Le monde agricole qui a été, il faut le dire, touché par ces fameuses ententes à l'international, avec certaines crises également, pas plus tard que hier, on parlait de l'histoire des canards de la Hongrie, les ports là, dans les dernières semaines, avec la Chine. Le monde agricole, vous allez peut-être en rallier, mais vous allez en avoir qui sont peut-être pas de bonne humeur à votre endroit.
J'ai été extrêmement près des producteurs agricoles de mon comté depuis le jour 1, même depuis 2015, particulièrement des producteurs laitiers parce qu'on savait qu'il y avait un enjeu autour de tout ce qui s'appelle gestion de l'offre. Alors ça, depuis le début, je suis près d'eux et c'est sûr que depuis 6 mois, quand j'ai été nommée ministre de l'Agriculture, ça m'a permis d'avoir encore plus d'influence. Et...
Oui.
Alors non, je crois que les gens de chez nous, les gens du secteur agricole, comprennent à quel point j'ai été une alliée, à quel point d'avoir une députée qui a une voix forte, qui est du côté du gouvernement, qui peut même siéger au Conseil des ministres, donc qui peut vraiment porter leur voix, influencer les décisions. Ils ont compris que ça les sert aussi bien que c'est possible de le faire.
Mais de porter leur voix, mais d'atteindre, je dirais, des murs parfois au sein même de votre gouvernement, parce que vous avez beau les défendre, argumenter, mais au bout du compte, c'est le gouvernement qui décide. Puis des fois, quand les décisions viennent, elles ne sont pas nécessairement le message que vous aviez porté, là.
On a négocié 3 accords ou ratifié 3 accords de libre-échange qui sont à différents niveaux. Et pour l'ensemble de l'économie canadienne, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, on a accès à 1,5 milliard de consommateurs. Donc, pour l'ensemble de l'économie, ce sont de très, très bonnes nouvelles. Notre économie se porte très bien.
Ouais.
On est le seul pays du G7 à avoir signé avec les 6 autres pays du G7. C'est sûr et on le reconnaît que les producteurs sous gestion de l'offre, le lait, la volaille et les œufs, on a cédé certaines parts de marché et c'est pour ça qu'on s'est engagé à travailler avec eux pour évaluer les impacts et pour les compenser de façon pleine et équitable, ce qui est déjà annoncé en détail pour les producteurs de lait. Et notre engagement est tout aussi ferme. On a manqué un peu de temps pour la volaille et les œufs, mais l'engagement est toujours aussi ferme à leur égard.
Le porc?
Et le porc, bon, le porc, c'est, on est pris au milieu de la crise, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, effectivement, depuis 6 mois, la Chine nous rend la vie plus difficile au niveau commercial. Ça a commencé avec le canola.
Ouais.
Au niveau du porc, on sait qu'on a eu, il y a eu un enjeu au niveau des certificats d'exportation. On a mis en place tout le programme, le plan pour rassurer les autorités chinoises. Et on est encore dans des délais normaux de ce genre de discussion-là, mais notre priorité, c'est de réouvrir le marché chinois.
Est-ce qu'il y a un engagement ferme dans cette campagne-là d'avoir des mesures temporaires pour les producteurs?
Alors, il faut voir ça de deux façons. Quand on parle de la gestion de l'offre...
Mais je parle des producteurs de porc qui attendent, là.
OK, je veux juste faire parce que c'est quand même important de voir les producteurs sous gestion de l'offre. C'est un... Moi, je dis toujours un contrat social qu'on a avec eux depuis 50 ans. Ils se sont développés dans un contexte où on contrôle les paramètres au niveau de l'offre et de la demande. Alors que les autres producteurs qui sont dans le libre marché, qui ont un potentiel extraordinaire, qui s'ouvre devant eux quand on signe des accords de libre-échange, alors avec eux, on parle moins de compensation dans le même format, mais on parle plus d'avoir des programmes de gestion de risque. Et on a des programmes de gestion de risque qui sont disponibles pour eux, mais on est bien conscient que la nouvelle réalité fait en sorte qu'il faut les améliorer, ces programmes de gestion de risque-là, de façon significative.
Étiez-vous au fait de l'histoire du canard de Hongrie?
Pas dans le détail, c'est quelque chose...
Vous allez vous intéresser à ça, parce qu'il y a des producteurs transformateurs de chez nous là, qui perdent énormément. Là.
C'est sûr que je m'y intéresse. Et encore une fois, il y a toute une série de programmes de gestion de risque, qu'on appelle, qui ont été mis en place pour aider les producteurs d'un secteur ou de l'autre quand il arrive des situations inattendues comme ça.
L'aéroport.
Oui.
Ça sera encore un des objets de cette campagne électorale, comme ça l'est, on dirait, à chaque élection, que ce soit même municipale, provinciale, fédérale. C'est dans votre cours. Est-ce qu'on a tout fait ce qu'il fallait, puis est-ce qu'on peut revenir avec quelque chose de pertinent pour le gouvernement fédéral à l'endroit de la corporation de l'aéroport et de la ville de Sherbrooke?
C'est dans la cour de l'aéroport de Sherbrooke, de la ville de Sherbrooke, l'élément déclencheur pour que ce projet-là fonctionne. Il faut que la ville signe une entente avec une compagnie aérienne. C'est là que ça se passe. Au niveau du fédéral, ce qui nous a bloqués, pourquoi les conservateurs nous ont bloqués à l'époque où on avait cette entente-là signée, on l'avait dans nos mains en 2013-2014, les conservateurs nous ont dit non à une désignation, non à un transfert de désignation, non à un mécanisme où est-ce qu'on allait assumer le manque à gagner. Ils nous ont dit non sur toute la ligne. Maintenant, il y a un mécanisme qui est à la disposition de la ville de Sherbrooke, de la corporation de l'aéroport. Ils ont avancé dans ce mécanisme-là aussi loin que ça peut être fait. Maintenant, c'est l'entente qui nous manque pour pouvoir aller de l'avant.
Mais
avec
les libéraux ont dit non aussi à la désignation là, ou à un transfert. Ce que vous reprochez aux conservateurs, vous ne l'avez pas fait vous non plus.
Il y avait
plus,
trois options sur la table en 2013-2014 et il y en a une qui a été réalisée. Il y en a une qui a été réalisée. La ville et tous les autres aéroports ont accès maintenant aux services de sécurité aéroportuaire. Et vous pouvez être sûr qu'à partir du moment où cette entente-là va être signée, je vais continuer à travailler avec l'équipe. Et je n'ai jamais arrêté de travailler avec l'équipe de l'aéroport, d'ailleurs. Et on va trouver là, tous les mécanismes qui vont être possibles pour les aider au fur et à mesure, que ce soit au niveau des opérations, au niveau des infrastructures. Je vais être là, j'y crois, à ce projet-là, depuis le début.
Avant de parler de vos grands thèmes, vite, là... Les relations sont bonnes avec la ville de Sherbrooke?
Bien sûr.
OK. Les enjeux. Marie-Claude Bibeault veut mettre quoi sur la table durant cette campagne?
Alors, en ayant cette réflexion-là, je me suis rendu compte à quel point des grands enjeux nationaux sont des grands enjeux régionaux. La connectivité rurale... Donc,
Encore.
On a mis un demi-million.
On va venir à bout de ça à un moment donné.
C'est un grand pays à connecter, hein, le Canada.
Oui.
Donc,
ça fait des années, des décennies qu'on parle de ça.
On a mis un demi-milliard là-dedans, puis on a connecté 900 communautés.
Ouais.
Entre autres, chez nous, il y a toute la MRC de Coaticook qui a le financement. Donc, le chantier est en cours, là. Les gens ne sont pas encore connectés, mais le financement est arrivé. Et là, tout le plan qui va se déployer dans les prochaines années, on parle de 5 à 7 milliards de dollars. C'est majeur.
Ouais.
Puis c'est majeur pour le comté, vraiment.
Ouais.
La question de la pénurie de main-d'œuvre aussi, je n'entends parler que de ça dans tous les secteurs d'activité. Alors, de voir comment il faut bien travailler avec le gouvernement du Québec.
Ouais.
Évidemment, c'est un incontournable au niveau de l'immigration, mais aussi des programmes qui vont encourager les aînés à rester un peu plus sur le marché du travail. Donc, ça, c'est sûr. Toute la question de l'environnement, à différents égards, investissement dans l'innovation, protection de nos lacs, c'est important. Plus régionalement, il y a aussi la ferme école Aquaticook, le CIARC, qui est en train de développer un programme de modernisation. Donc, c'est quelque chose que je suis de très, très près.
OK. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y aura d'autres engagements à venir. Marie-Claude Bibeau, députée sortante de Compton-Stanstead, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci.
Merci à vous.